Bonjour frères et sœurs et bon sabbat. Dieu dit que la lumière soit. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Du moment de la création, dont nous lisons en Genèse, jusqu'à la fin du livre d'Apocalypse, la parole de Dieu décrit la lumière comme une force qui surmonte les ténèbres. Le contraste entre la lumière et les ténèbres est l'un des éléments fondamentaux de la création de Dieu. Jusqu'au début des 6 jours de la création, l'obscurité et le chaos régnaient. Cet état est décrit succinctement par les anciens mots hébreux de Tohu et Bohu. Puis Dieu a parlé. Sur son ordre, la lumière brillait dans les ténèbres et l'ordre était établi. Dieu a alors appelé le jour de lumière et la nuit d'obscurité. Et le phénomène que nous connaissons comme le temps a commencé. Dieu a établi l'ordre hors du chaos en créant de la lumière. En plaçant la lumière dans le monde, il surmonta l'obscurité de l'univers entier en un souffle. Que la lumière soit. Nous n'avons pas besoin de lire plus loin en Genèse, dans la Bible, que les premiers versets pour trouver des preuves de la toute-puissance de Dieu, de son pouvoir impressionnant. Ces paroles de Dieu ont été le début de tout ce que nous voyons autour de nous. Sans lumière, il n'y peut y avoir de vision, pas de moyen de percevoir pleinement le monde qui nous entoure. En créant la lumière, Dieu a mis en œuvre son plan de salut impressionnant pour toute l'humanité. Nous voyons donc que la lumière vient de Dieu. Nous notons également que Dieu a appelé la lumière bonne. Trouvez-vous comme moi que la lumière est magnifique? J'aime beaucoup regarder le coucher du soleil et toutes les couleurs. Pour moi, le soleil est un rappel que Dieu a quand même créé la terre en pensant à l'homme et en pensant à comment la vie serait sur la terre pour tous les hommes. Il nous a donné des yeux et des oreilles et tout le corps pour apprécier la création. La lumière nous rappelle de la puissance de Dieu aussi. Dieu est lumière. Il dissipe les ténèbres de ce monde. C'est une qualité de notre Dieu. Donc, que symbolise la lumière dans la Bible? Si la lumière représente le bien comparé au mal associé aux ténèbres, il est naturel que ceux qui ont été inspirés pour écrire les paroles de la Bible décrivent Dieu comme une lumière. C'est comme ça que Dieu s'est révélé aux hommes. Donc, en nous donnant de la vue, il nous a également fourni une façon de comprendre son caractère. Quand nous lisons de la lumière dans la Bible, nous observons que la lumière signifie souvent la présence de Dieu, sa faveur et sa vérité. Dans le psaume 27, David décrit Dieu comme une lumière. Psaume 27. Reportons-nous au psaume. Psaume 27, à partir du verset 1. Psaume 27, verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Dans tout l'Ancien Testament, la lumière est régulièrement associée à Dieu et à sa parole, au salut, au bien, à la vérité, à la vie. Le Nouveau Testament contient des associations très similaires. Dans 1 Jean chapitre 1, 1 Jean chapitre 1, Dieu est décrit par les mots suivants, au verset 5. 1 Jean chapitre 1 et le verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point de lui, qu'il n'y a point en lui de ténèbres. L'apôtre Jean mentionne la bonté totale et la perfection de Dieu. Il associe cette perfection avec la lumière qui surmonte les ténèbres, le mal. Reportons-nous maintenant à Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. À partir du verset 17. Jacques 1, 17. Ici, Dieu est décrit comme le Père des Lumières. Verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Nous voyons donc que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament contiennent un message cohérent selon lequel Dieu est une lumière qui dissipe les ténèbres de ce monde. Dieu est sans conteste bon dans chaque action, même parfois si nous ne pouvons pas comprendre son dessein. Jésus-Christ est venu en tant que la lumière du monde, brisant les ténèbres du péché par son sacrifice. Reportons-nous maintenant à l'Évangile de Jean, chapitre 1. Tout au début de cet évangile, il y a une référence qui associe Jésus-Christ avec la lumière. Jean, chapitre 1. Lisons à partir du verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Donc, encore une fois, nous revenons à cette idée de la création et le tout début de toute chose. Verset 3, « Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » C'est comme s'il y a, encore une fois, des passages ici qui correspondent à ce que nous pouvons lire au début de Genèse. Genèse chapitre 1. Mais ce passage ici, nous concentre sur l'arrivée et de Jésus-Christ. Verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. Donc, ici, c'est plutôt un résumé de beaucoup du moment avant la création des hommes jusqu'au moment où la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Donc, on voit ici une sorte de prophétie concernant Jésus-Christ. Dans ce passage, nous savons que lorsque Jean écrit de la parole, il fait référence à Jésus-Christ. Lisons les versets 6 à 9 maintenant. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Mais où Jean a-t-il eu cette idée en écrivant le récit évangélique selon lequel Jésus-Christ est la lumière du monde, comme il a écrit en récitant? Ces idées n'étaient pas de nouveaux concepts pour Jean. Au moment de la naissance de Jésus-Christ, les prophéties bibliques étaient bien connues par des Juifs. Considérons Ésaïe, chapitre 42. Ésaïe, chapitre 42, pour un exemple. Ésaïe 42, nous allons lire les versets 6 et 7. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main. Je te garderai, et je t'établirai pour traiter l'alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur chaos ceux qui habitent dans les ténèbres. Une petite parenthèse ici nous permettra peut-être d'avoir une meilleure idée de l'importance de cette prophétie. Le mot « nation » au verset 6 correspond à l'hébreu « goy » et au grec « ethnos ». Ce sont deux mots qui signifient la nation, le mot « nation » en français. Les nations apparaissent comme division caractéristique de l'humanité après la dispersion de Babel. Israël est une nation mise à part, un peuple saint. Ce n'est que plus tard que l'expression « goy » ou « nation » a pris un sens plutôt péjoratif et a désigné des nations autres que Israël, par conséquent celles qui ne connaissaient pas l'Éternel. Au verset 7, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur chaos ceux qui habitent dans les ténèbres, nous avons une référence ici, encore une fois, qui traite l'idée du fait que les ténèbres cachent la vérité. Les ténèbres cachent ce qui est vrai, ce qui est réel, et ils cachent pour l'homme la voie de la vie. Parlant prophétiquement de l'œuvre de Jésus-Christ, le prophète Ésaïe a été inspiré pour écrire des miracles qu'il avait accomplis dans sa vie, que ce soit pendant son premier ou son second avènement. La moitié des chapitres entre Ésaïe chapitre 40 et Ésaïe 61 parle directement de Jésus-Christ. Donc, si vous considérez une étude biblique, je vous propose une étude des chapitres 40 à 61 du livre d'Ésaïe pour voir ces aspects que nous retrouvons dans Jésus-Christ. Reportons-nous maintenant à l'Évangile de Luc, chapitre 2. L'Évangile de Luc, chapitre 2, à partir du verset 25. Luc 2, 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. » Voici quelqu'un qui a bien reconnu les prophéties d'Ésaïe et qui a vu avec ses propres yeux cette lumière dont écrivait Jean au début de l'évangile de Jean. Comme nous le voyons ici, alors que Jésus était encore enfant, Siméon l'a reconnu comme accomplissant les prophéties d'Ésaïe. Cela a soulagé Siméon, et il a remercié Dieu. Plus tard dans la vie de Jésus, il a fait des déclarations qui s'inspiraient de ces mêmes prophéties. Par exemple, reportons-nous à Jean 8, verset 12. Jean 8, verset 12. Ici, Jésus déclare qu'il est la lumière du monde. L'évangile de Jean, chapitre 8, et le verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura de la lumière de la vie. » Donc, encore une association, on le voit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, la lumière associée avec la vie. Et encore plus, la vie éternelle. Qui sont ceux qui le suivent d'après cette instruction? Ce sont bien ceux qui sont appelés, attirés par le Père. Mais comment les identifier? Lisons plus loin. Jean chapitre 9, le verset 4. Jean chapitre 9 et le verset 4. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ah, mais qu'est-ce qu'il voulait dire par cela? Pour Jésus comme pour les siens, il n'y a qu'un temps déterminé où ils puissent travailler et faire les œuvres de Dieu. C'est le temps de la vie présente. En effet, ces mots, pendant qu'il fait jour, sont clairement expliqués au verset 5. Pendant que je suis dans le monde, c'est ce qu'il dit. C'est clairement expliqué. Le jour pendant lequel on travaille est donc celui de notre vie. La nuit, c'est la mort. Jésus fait ainsi allusion à sa fin prochaine et montre dans son infatigable activité l'exemple que doivent imiter les siens. Nous cherchons à suivre ses pas, à marcher dans ses voies. Nous cherchons aussi de travailler lorsqu'il est jour, le temps qu'il est encore jour, de faire de notre vie ce don que Dieu nous a donné, de faire de notre vie quelque chose qui sert à l'Éternel. Le temps déterminé de la vie de Jésus sur la terre était celui où il devait accomplir son œuvre spéciale par ses souffrances et sa mort. Après cela, ce sera par l'Esprit de Dieu et par le ministère de ses témoins que Jésus poursuivra son œuvre. Il a bien préparé ses disciples pour ce stade, pour cette phase suivante. Alors, si l'œuvre continue, qui est la lumière du monde? Dans le serment sur la montagne, Jésus demande à ses disciples d'être la lumière du monde et des porteurs de lumière. Reportons-nous maintenant à Matthieu chapitre 5, Matthieu 5 à 7. On l'appelle le serment sur la montagne et on y trouve beaucoup d'instructions pour notre comportement et pour comprendre mieux ce que Dieu attend de nous en tant que chrétiens. Matthieu chapitre 5, lisons à partir du verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Je sais que il n'y a pas longtemps, j'étais avec mes enfants, j'étais dans notre salon et j'ai allumé une bougie. Je l'ai allumée et j'ai éteint toutes les lumières dans le salon. Et j'ai mis la bougie un peu éloignée de mes enfants et je leur ai demandé, est-ce que vous voyez bien la lumière? Et ils m'ont dit oui, nous voyons très bien la bougie, nous voyons la lumière. Et j'ai dit, c'est très, très important de comprendre que depuis très loin, même s'il y a une seule lumière dans une chambre, dans une salle, on le voit sans problème, on le voit très bien. La lumière, une petite bougie, peut être très loin de nous et on peut l'apercevoir quand même. C'est très important de se rappeler du pouvoir de notre exemple. Et quand on considère notre exemple, je parle pour nous personnellement, mais aussi pour nous en tant que des assemblées où les membres de Dieu font des assemblées sabbatiques, toutes les semaines, le jour du sabbat. Là où vous êtes, Dieu a choisi de mettre une étoile sur la carte. Si vous pouvez imaginer une carte du monde avec des petites étoiles qui brillent pour les endroits où le peuple de Dieu s'assemble pour ses assemblées sabbatiques, pour le sabbat, on peut imaginer que chaque endroit représente une étoile, une petite étoile qui brille et qu'on peut voir de très loin même. Donc c'est ça, là où vous êtes, là où nous sommes. Il s'agit d'une petite bougie qui brille. J'espère que nous comprenons tous que Dieu ne nous appellerait pas ici sans avoir déjà quelque chose de prévu pour nous. Un ministre de l'Église de longue date m'a dit une fois que M. Armstrong l'avait dit que si Dieu nous a appelés, il prévoit que nous accomplissions quelque chose, un rôle pour rendre service à son Église aujourd'hui. Et bien sûr, il nous prépare une place pour l'avenir. Il y a une grande variété de tâches importantes à accomplir dans toutes les assemblées du monde, sur tous les sites de fête également, partout dans le monde. Et nous nous préparons en ce moment pour la fête des tabernacles et les fêtes de l'automne. Ce n'est pas prévu que seulement une ou deux personnes fassent toutes les tâches. Nous faisons partie d'un corps spirituel composé d'hommes et femmes dans lequel nous sommes censés de servir à quelque chose, d'apporter quelque chose. Et nous n'avons pas tous les mêmes talents, mais nous avons tous quelque chose à apporter, que ce soit à l'assemblée sabbatique hebdomadaire ou à la fête des tabernacles. Les instructions de Matthieu 5 ont été données à un petit groupe de disciples lorsqu'ils se rassemblaient autour de Jésus pour entendre ce que nous appelons maintenant, comme je vous ai dit, le serment sur la montagne. En tant que disciples de Jésus-Christ, aujourd'hui, appelés hors du monde par Dieu le Père, ces instructions nous sont adressées. Compte tenu de ce que nous savons de la signification de la lumière, que disait Jésus-Christ à propos de ce qu'il attend de nous dans ce passage? Je pense qu'il est clair que nous avons un rôle important à jouer dans les exemples que nous donnons en tant que membres du corps de Christ. Dieu attend, ou Dieu s'attend à ce que nous soyons des exemples brillants pour le monde et aussi, bien sûr, pour nos frères et sœurs. C'est quand même encourageant pour nous de voir entre nous, en tant que frères et sœurs, des bons exemples. Ça nous encourage tous et ça fait aussi briller notre exemple collectif dans le monde entier. Est-ce que cela vous ferait plaisir d'avoir une grande lumière qui brillait là où vous êtes, d'avoir un très bon exemple. Est-ce que ça vous ferait plaisir de recevoir de nouveaux appels qui arriveraient à l'Assemblée, à votre endroit, là où vous vous trouvez? Moi aussi. Mais s'ils sont bien guidés par l'Esprit de Dieu, ils ne reviendront pas longtemps s'ils ne voient pas la lumière ici. Oui, il est possible de voir la lumière du jour lorsqu'on est encore aveugle, mais quand il s'agit de la lumière spirituelle dont Jésus parle ici, il est invisible aux yeux vraiment. On le ressent au cœur. On peut ressentir cette lumière au cœur. Dieu est lumière qui dissipe les ténèbres de ce monde. Jésus est venu comme la lumière du monde, traversant les ténèbres du péché. Il s'ensuit que les membres du corps de Christ devraient également servir de lumière du monde. D'après Jean chapitre 9 et le verset 39, il est venu pour que les aveugles voient. Pourquoi nous ne ferions pas pareil? Pourrions-nous accueillir des personnes qui cherchent mieux voir, mieux comprendre la vérité? Le livre des Actes raconte la suite de l'œuvre de Jésus-Christ en tant que lumière, même au-delà de sa mort et de sa résurrection par la puissance de l'Esprit de Dieu. Donc, comment accomplissons-nous complètement cette instruction de Jésus-Christ d'être la lumière du monde? Pour atteindre la hauteur de cette vocation, je pense que nous devons nous concentrer sur des objectifs précis. Considérons également la signification du rôle que notre Seigneur nous a demandé d'accomplir. Par conséquent, je voudrais vous souligner les points suivants qui sont, d'après moi, des principes basés dans la Bible. Numéro 1. Laissons sa lumière briller à travers nous. Laissons sa lumière briller à travers nous. Si vous étudiez un peu pourquoi le coucher de soleil est aussi beau le soir, vous allez découvrir que chaque élément dans l'atmosphère a un reflet différent de cette lumière qui vient du soleil. Ce sont les longueurs d'onde de la lumière qui font que la couleur change un petit peu avec chaque élément. Chaque produit chimique, chaque arrangement moléculaire fait son propre reflet. C'est quand même beau le résultat, n'est-ce pas? On peut se tromper en imaginant que c'est soi-même qui est la source de lumière. A-t-on parfois oublié de reconnaître Dieu et de prendre la gloire pour nous-mêmes? Je dirais qu'on le fait assez souvent. On ne reconnaît pas que c'est Dieu qui fait possible sa réussite. Face à cela, réfléchissons de temps en temps au fait que Dieu est la source de la lumière. C'est lui la puissance, c'est lui la vie même. Et laissons sa lumière briller à travers de nous. 2 Corinthiens chapitre 4 et le verset 3. 2 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 3. Verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Au verset 6, Paul décrit quelque chose de vraiment profond qui nous concerne en tant qu'individus et au niveau de la congrégation. Le même Créateur qui a créé la lumière a fait un miracle en nous aussi. Nous sommes devenus des miroirs, des matières capables de refléter la lumière de Dieu. Et Dieu s'en sert de nous pour révéler sa gloire à l'humanité. En tant que membres du corps du Christ, nous avons en nous la puissance du Saint-Esprit. C'est ce pouvoir, un don de Dieu, qui nous permet de briller vraiment, comme l'huile dans une lampe. L'huile alimente la flamme une fois allumée. La source du Saint-Esprit est Dieu, mais cet Esprit nous donne la capacité d'être des lumières pour le monde. Apprenons à reconnaître la source de la lumière. Ça, c'est notre deuxième point. Apprenons à reconnaître la source de la lumière. Comment pouvons-nous espérer briller quand, comme mentionné dans Jean 1, nous ne comprenons pas la lumière? Le baptême n'est que le début de la relation profonde que Dieu veut créer avec nous. Dans Romains 8, Paul mentionne l'adoption spirituelle en cours par Dieu le Père. Nous connaissons bien ces versets, nous n'allons pas nous reporter. Comment quelque chose pourrait-il être plus important qu'une relation étroite avec le Dieu de l'univers? Pour reconnaître la source de la lumière, il faut connaître le Dieu de l'univers. Reportons-nous maintenant en Ésaïe, Ésaïe chapitre 55. Ésaïe 55, maintenant au verset 6. Ésaïe 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qu'il aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Parfois, les épreuves peuvent nous rapprocher de lui quand nous nous sommes éloignés. Au lieu d'attendre une épreuve, par contre, préparons-nous d'avance. Dieu n'est jamais trop occupé pour nous aider. Aussi petit que soit le problème à nos yeux. Nous pouvons nous approcher à Dieu. Nous pouvons demander le pardon de notre Dieu. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4 et le verset 8. Jacques nous exhorte de s'approcher à Dieu. Je trouve que l'être humain est très intéressant. Des fois, le chrétien est motivé de s'approcher à Dieu. Donc, il passe à la lecture de la Bible, qui est très bien. Il remercie Dieu pour ses bienfaits, ce qui est très bien aussi. Il parle de Dieu dans les conversations, dans les discussions, ce qui est très bien aussi. Mais des fois, pour la tendance des hommes, c'est tout oublier de se repentir, n'est-ce pas? Des fois, on oublie le repentir qui fait partie de notre façon de s'approcher à Dieu. Lisons ici au verset 8, Jacques chapitre 4 et le verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Comme je vous ai dit, l'étude biblique est excellente. Louer l'Éternel pour ses bienfaits l'est aussi. Par contre, est-ce que nous nous rapprochons de Dieu par la prière de la repentance et par le jeûne, nous pouvons tous renforcer nos relations avec Dieu. Nous pouvons apprendre à le connaître et à rechercher sa volonté tous les jours. Nous devons lui demander ce qu'il veut de nous en s'approchant de lui avec humilité. Troisième point, c'est pour être des lumières dans le monde, c'est montrer l'exemple avec une attitude pieuse. S'il vous plaît, rapportons-nous aux Philippiens 2. Philippiens, chapitre 2. Lisons à partir du verset 14. Comment montrer l'exemple avec une attitude pieuse. Verset 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensible au milieu d'une génération perverse et corrompue parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Pourtant, la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Paul s'inquiète un petit peu de son travail, du fait que s'il a bien travaillé et que les membres ne suivent pas le bon chemin, ça pour lui représente un travail en vain. Mais Paul ici nous donne tous la cible. Toutes choses sans murmure, toutes choses sans hésitation. Quelqu'un m'a partagé une observation récemment que les enfants de jeune âge réagissent des fois sans hésitation. Ils se lancent dans l'action. Notre Père Céleste s'attend de nous une obéissance comme ça, une obéissance comme un enfant, comme de petits-enfants, sans hésitation. Paul rappelle ici aux Philippiens que leur attitude est importante, peu importe ce à quoi ils sont confrontés, même s'ils se retrouvent entourés d'obscurité spirituelle, des ténèbres du monde. Nous ne sommes pas appelés à simplement adopter notre meilleur comportement lorsque nous sommes avec des personnes partageant le même esprit. Nous sommes appelés à donner l'exemple à toutes les personnes avec lesquelles nous entrons en contact. L'attitude sainte dont nous avons besoin vient de l'intérieur et devrait briller à tout moment. Nos paroles sont très importantes à maîtriser. Nous pouvons faire mal aux autres avec nos paroles. Jésus a donné un avertissement au sujet de parler au 12e chapitre de Matthieu. Matthieu 12 et à partir du verset 35. Matthieu chapitre 12. Verset 35. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Notre fort intérieur doit être calme et tranquille, sinon nous risquons de nous souiller. Plus loin, au chapitre 15, nous voyons cet exemple. Matthieu, chapitre 15, à partir du verset 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche. C'est ce qui souille l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent. Et puis, Jésus discute avec eux de ce qui s'est passé, parce que les pharisiens parlaient du lavement rituel. Mais maintenant, ici, au verset 15, Pierre, prenant la parole, lui dit, « Explique-nous cette parabole. » Et Jésus dit, « Vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Attention à cette instruction. C'est que Jésus a envie de nous donner une instruction sur l'importance d'être pur au cœur, d'avoir des bonnes motivations et d'être dans un esprit tranquille. Quatrième point, c'est pour être une lumière dans le monde, c'est porter de bons fruits. Porter de bons fruits. Puisque Dieu est le propriétaire de la création, qui est souvent comparé au verger et au vignoble, Dieu connaît notre caractère par nos fruits spirituels. Une anecdote qui vient à l'esprit, c'est que depuis récemment, là où j'habite tout de suite, je vois beaucoup de champs de maïs et de soja marqués avec des pancartes de la semence d'une certaine marque de semence. J'ai consulté leur site Internet de cette marque de semence et sur leur site Internet, ils publient les récoltes par acre ou par hectare pour qu'on puisse comparer les variétés semées avec les autres. Ils ont des calculs très précis, très détaillés, qui font qu'on a une bonne idée de la production, le rendement de chaque semence. Et ils connaissent bien leurs fruits. Ils font tout un travail pour suivre le fruit que produit leur semence. Il est évident que Jésus-Christ connaissait le fruit des pharisiens auxquels il s'adressait dans Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, c'est lorsqu'il déclara qu'un arbre est connu pour son fruit. Matthieu chapitre 12, lisons le verset 13. Matthieu 12, le verset 13. Alors il dit à l'homme, en étant la main, ta main, et l'étendit et devint saint comme l'autre. Et donc, ici, lorsqu'il déclara l'arbre qui est connu par ses fruits, c'est comme ça qu'on sait que Jésus nous regarde. Il nous regarde par le cœur. Il regarde le cœur de l'homme pour voir ce qui se passe. Il ne regarde pas seulement ce qui sort de la bouche de l'homme. Et il regarde le cœur de l'homme. Considérons Matthieu chapitre 7 maintenant. Ce n'était pas Matthieu 12, mais c'est quand même Matthieu chapitre 7 que je voulais souligner. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 17. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre à porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Donc, on voit ici un mauvais arbre représente donc un individu pécheur ou mauvais. Mais fuir le mauvais ne suffit pas. Quand nous corrigeons nos enfants à la maison, nous leur demandons souvent de nous dire ce qu'ils vont faire de mieux la prochaine fois. Il faut se décider de faire mieux pour éviter le mal. Ils nous disent souvent qu'ils ne feront pas le mal. Puis, nous les exigeons de nous dire ce qu'ils feront de bien, pour remplacer le mal avec le bien. au lieu de nous dire « je ne frapperai plus mon frère », par exemple, ils nous disent plutôt « j'encouragerai mon frère » ou « je jouerai avec lui gentiment ». Nous avons besoin aussi de porter de bons fruits. C'est une déclaration générale, mais il s'agit souvent de faire usage des dons de l'Esprit de Dieu pour le bénéfice des autres. Galates chapitre 5 énumère les fruits de l'Esprit. Galates chapitre 5. Considérons l'importance de remplacer le mal avec le bon fruit, avec le fruit de l'Esprit. Il y a plusieurs aspects du fruit de l'Esprit. Et Paul passe du temps à expliquer le mal de ce monde et il le met tout en contraste avec le fruit de l'Esprit au verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Donc, on en voit ici toute une liste de caractéristiques du fruit de l'Esprit. Quelque chose que nous avons besoin d'apporter avec nous lorsque nous sommes tous ensemble à l'Assemblée, lorsqu'on part pour le travail, lorsqu'on passe du temps à la maison, n'importe où, nous avons besoin de produire le fruit de l'Esprit. Et ceci remplace le mal. Pensons à ne pas seulement éviter le mal, mais remplacer le mal avec le bon, avec ce qui est bon. Point numéro 5, ne soyons pas trompés par les ténèbres. Nous habitons, nous vivons dans un monde ténébreux. Ne soyons pas trompés par les ténèbres. Paul avertit l'Église d'Éphèse de ne pas se laisser abuser par ce que la société autour d'eux dit comme acceptable, ni par de faux prophètes non plus. Éphésiens 5, à partir du verset 8, nous sommes quand même appelés de sortir des ténèbres et de s'approcher à Dieu, source de lumière, pour que sa lumière brille à travers nous, pour que nous puissions réfléchir, refléter sa lumière. Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 8. Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Verset 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Cette dernière expression-là, condamnez les ténèbres, ou les œuvres infructueuses des ténèbres, nous avons quelque chose de très instructif ici, parce que nous ne sommes pas seulement appelés à rester silencieux quand des mauvaises choses se passent dans le monde. Nous pouvons quand même dire que ce qui se passe dans le monde, la violence, les meurtres, tout ce qui se passe, tout ce que Paul a listé, dans Galates chapitre 5, comme les choses qui se passent dans le monde, nous pouvons condamner ces choses. Mais Paul nous exhorte à rechercher ce qui est acceptable pour Dieu, tout en se tenant à l'écart des œuvres infructueuses, pour ne pas retomber dans leur état antérieur avant que Dieu ne les appelle. C'est ça qu'il dit aux Éphésiens et c'est aussi acceptable et applicable à nous, que nous ne tombons plus dans l'état antérieur avant l'appel de Dieu. Les Éphésiens étaient autrefois des fils de la désobéissance. C'est ce qu'il dit ici, des enfants des ténèbres. Cependant, à travers l'appel de Dieu, la voile a été levée de leurs yeux, ce qui a éclairé leur compréhension obscurcie. Nous devrions prendre à cœur l'avertissement de Paul de ne pas être trompés par les mensonges de ce monde. Cela s'applique tout particulièrement à nos jeunes qui sont aujourd'hui confrontés aux influences de ce monde. Et même les choses les plus récentes qui se sont passées dans le monde sont maintenant intégrées. Tout ce qui est le mal de ce monde est intégré à la vie sociale, à la vie quotidienne. Et nos enfants ont besoin de notre aide pour apprendre la voie de Dieu et pour répondre, pour faire face à leurs questions quand ils voient ces choses dans le monde. Ils vont nous poser des questions. Il faut pouvoir répondre à leurs questions à mesure qu'ils grandissent, avec l'objectif, bien sûr, de continuer la discussion, continuer à discuter et de ne pas passer à une phase où nos enfants s'approchent au monde pour apprendre et qu'ils laissent à côté l'instruction de la Bible, de la parole de Dieu. Il faut un effort quand même assez concentré de ne pas laisser passer ces choses parce que l'influence du monde est très, très fort dans la vie des jeunes. Point numéro 6, fixons nos yeux sur le royaume de Dieu. Pour être une lumière dans le monde, il faut que nos yeux restent fixés sur le royaume de Dieu. La gloire de Dieu éclairera le monde à venir. La gloire de Dieu arrivera ici sur la terre. Les nations marcheront à la lumière de Dieu. La parole de Dieu, après le retour de Jésus-Christ, apportera l'espoir d'une lumière à venir. Et nous avons quand même un avertissement de l'apôtre Pierre ici, 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1. De Pierre, chapitre 1, le verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à paraître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Lors du retour du Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, toutes les ténèbres seront dissipées et la paix commencera à régner à partir de Jérusalem. Si nous gardons cette vision dans nos esprits, elle nous aidera à briller fort, avec de l'espoir en attendant son retour. Puis, à la fin des 1000 ans, dans la nouvelle Jérusalem, il n'y aura plus de nuit. Reportons-nous maintenant à Apocalypse chapitre 22. Après 1000 ans, nous avons quand même, dans l'avenir lointain, nous avons la nouvelle Jérusalem. Apocalypse 22, et à partir du verset 3. Ceci nous donne de l'espoir pour l'avenir. Verset 3, il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Ils régneront au siècle des siècles. Pas besoin de soleil, ni la lune. Dieu fournira la lumière. Dieu et sa famille brilleront ensemble. Nous avons ça pour nous rendre plus forts, pour nous encourager dans ce monde ténébreux. Dans la nouvelle Jérusalem, il n'y aura plus de nuit. La ville n'aura pas besoin de soleil, de la lune ou de la lumière créée pour y briller. Toutes choses brilleront à cette époque-là. Pour terminer, revenons à Matthieu chapitre 5, le sermon sur la montagne, et lisons à partir du verset 14, Matthieu 5, 14. Remarquons ici, en lisant, le résultat souhaité par Jésus-Christ, alors que nous brillons dans nos exemples devant les hommes. Matthieu 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et si en voyant notre exemple, que ce soit aider quelqu'un dans le besoin, de résister la tentation pour démontrer le fruit de l'Esprit, si en voyant notre exemple, on remerciait Dieu aujourd'hui. La gloire ne nous appartient pas aujourd'hui, mais à Dieu, qui est capable de travailler à travers nous pour accomplir sa volonté. Il est capable de briller à travers nous. Ainsi, lorsque la tribulation sera terminée et que notre roi reviendra pour régner, nous serons semblables à lui, tout comme nous avons lu en Apocalypse 22. Nous sommes capables d'être changés en immortels, de corruptibles en incorruptibles. Assurons-nous que notre exemple ressemble à une lumière brillante qui brille de la puissance de l'Esprit de Dieu. Ne cachons pas notre exemple sous un panier. Plaçons-le sur un chandelier à la vue de tous. Soyons des lumières dans le monde.